Session de philosophie à Rimont par le Père Marie-Dominique Philippe. 8e conférence, le 12 février 1994. Session est sur la personne humaine.
Nous allons continuer cette description du « je suis ». En essayant de comprendre tout ce qui est impliqué dans cette affirmation. J'existe, je suis distinct des autres, unique en moi-même, ayant cette unité profonde de mon exister. Et cet exister se manifeste en premier lieu par l'intelligence. Mon esprit, dans la recherche de la vérité. Oui, ce n'est pas l'acquisition de la vérité, mais la recherche de la vérité. Et ça, je crois que c'est très important. Cette recherche de la vérité exprime le désir, l'appétit naturel de mon intelligence. Mon intelligence faite pour ce qui est et pour la vérité. Et cet appétit, mon intelligence me maintient dans cette ouverture constante. Plus je connais ce qui est, plus je suis dans la vérité. Et plus je suis dans la vérité, plus j'ai soif de vérité. La vérité appelle la vérité. À cette profondeur qu'elle se repose, comprenez bien, c'est un repos momentané dans la connaissance qu'elle a d'elle-même et d'elle-même dans la profondeur du je suis. C'est ça qui est très étonnant. Je suis profondeur substantielle de mon autonomie. Je connais mon autonomie. Et c'est comme un moment auquel je reviens tout le temps, mais qui reste ouvert à la recherche d'une vérité que je n'ai pas immédiatement. Cette vérité de moi-même, je l'ai immédiatement. Je me connais immédiatement. Et je me connais d'une manière qui est unique. Personne ne me connaît comme je me connais. Il y a donc là une profondeur. Oui, pas du cogito, mais de la connaissance, de la pensée vis-à-vis de moi-même, qui me semble très importante. Je suis un être qui pense. Je suis donc un être lumineux, dans la mesure où ma pensée est à la vérité. Je suis lumière, témoin de la lumière. Et ça fait partie de ma personne. Et je suis capable d'aimer un ami. Et c'est nécessaire. Ma personne, évidemment, vous allez dire, si l'ami meurt, ma personne ne meurt pas, c'est sûr. D'une certaine manière, l'amour de l'ami a quelque chose d'éternel. Parce que c'est un amour qui est premièrement spirituel. Et l'amour d'un ami n'exclut pas la connaissance et la capacité d'aimer un ami. La vérité, elles sont diverses, ces vérités, c'est sûr. Mais la vérité a une unité en elle-même très radicale. Puisque la plus grande vérité c'est moi-même. Je me connais comme roi des animaux. C'est ma petite royauté. Et je me connais dans la République sacrée des hommes. Tous ces êtres intelligents qui sont autour de moi. Et je me connais en relation avec eux, mais c'est toujours la connaissance que j'ai de moi qui est radicale. Tandis que l'amour, c'est l'ami. Et l'ami implique une diversité. Puisque c'est une bonté, la bonté personnelle de quelqu'un que j'aime et que je choisis. Il n'y a pas d'exclusivité, venez. Quatrième dimension. Donc, je continue. Autonomie. Deuxièmement, recherche de la vérité. Troisièmement, capacité d'aimer. Esprit Saint, c'est l'esprit. Ici, la substance. L'aspect substantiel qui me donne cette autonomie. Donc, la philosophie première, qui est la présence. La philosophie première m'a apporté le sens de la profondeur de mon autonomie et l'originalité de cette autonomie. La vie de l'esprit, intelligence et volonté montrent ces deux grands axes où il n'y a aucune rivalité, mais une rivalité entre le point de vue de la recherche de la vérité et la capacité d'aimer. C'est faux, il n'y a pas de rivalité. Mais c'est sûr, hein, c'est évident que chez les uns, la recherche de la vérité est beaucoup plus poussée. Chez d'autres, la capacité d'aimer est plus poussée. Ce qu'on dira, ah, c'est un affectif celui-là, personnalité affective. On voit toujours les grands affectifs. Il y a des grands affectifs. Il y a des bouleaux et des cèdres. Celui qui recherche la vérité, il est toujours plus bouleau. Tandis que celui qui est un affectif, il est plus cèdre. Vous voyez, parce qu'il accueille tous les oiseaux du ciel, tous les oiseaux du paradis, il les prend. Tandis que celui qui recherche la vérité n'aime pas trop de s'encombrer. Un moineau, c'est léger, mais beaucoup de moineaux, c'est pas léger. Alors, on les secoue. Et c'est très significatif. C'est très significatif qu'une personne orientée vers la recherche de la vérité, c'est très particulier. C'est le javelot qui est tout le temps prêt à bondir et qui va droit, tout droit. Tandis que l'accueil, la capacité d'accueil, c'est très différent. Et c'est quelque chose de très enraciné, c'est beaucoup plus qu'un choix. C'est la marque du « je suis ». Quatrième dimension, j'appelle ça les dimensions. Je crois que c'est vraiment les dimensions de la personne humaine. Quatrième dimension. La sagesse pratique, la prudence. C'est quelque chose de nécessaire pour la personne humaine. Vous voyez, c'est comment l'esprit et l'irascible, les passions, tous les aspects passionnels qui sont en toi, bien tout cela demande d'être organisé, cultivé, transformé par l'esprit. Autrement, vous attrapez des fièvres paludiennes. Avec leur concupiscible, il y a des gens qui sont tellement pris par leur concupiscible que quand ils sont pris par, par les fièvres paludiennes, ils n'existent plus. Ils existent dans les fièvres paludiennes. Ils sont pris par une passion. Passion. Ils ne sont plus là. Vous voyez ? Parce que l'imagination, hein, l'imagination développe énormément tout le domaine des passions. Si cela n'est pas ordonné de l'intérieur, la personne humaine devient folle. La folie, c'est quand même une destruction de la personne humaine. Quelle belle personne humaine, quand vous allez, hélas, dans un hôpital psychiatrique, ou dans un hospice. Vous savez bien ce qu'on dit habituellement, et c'est vrai, c'est authentique, je l'ai entendu moi-même. Quelqu'un qui se précipite sur moi, surtout qu'en Dominicain, on a tout de suite des secrets, n'est-ce pas, chez ces gens-là. Dire, mon père, faites attention, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire qu'il est Dieu le Père. Et c'est pas vrai.
Par ces quatre vertus cardinales, tout le monde
psychisme passionnel, imaginatif et cultivé. Toutes les fièvres paludiennes disparaissent. Tout ce terrain disparaît et le point de vue de l'esprit peut alors se développer librement. Vous voyez, on ne détruit pas les passions, sauf sur des stoïciens. Alors, c'est ça qui est très curieux, c'est que pour le stoïcien, la personne humaine se définit dans le choix. Et tout le point de vue des vertus cardinales, il n'y a que la prudence qui demeure. Mais la prudence est tyrannique. Elle supprime toute passion. La passion en elle-même n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est un développement passionnel qui dépasse tout. Alors ça, c'est mauvais. Et quand la passion déborde et que vous êtes devant un état passionnel d'irascibilité ou de concupiscible, c'est affolant. Parce que ça prend tout. Ça, quand on voit des êtres passionnés, et on en verra de plus en plus, on en voit déjà pas mal. Des êtres passionnés, c'est la qualité des jeunes d'être passionnés. Un jeune qui ne serait pas passionné, c'est triste. Mais il ne faut pas être passionné de façon telle que l'intelligence est complètement obnubilée. Et c'est l'imaginaire. On vit dans l'imaginaire. La prudence permet de discerner. C'est ça le propre de la prudence, de discerner le point de vue de l'imaginaire du point de vue réel. Parce que le propre de la folie, c'est de ne plus discerner l'imaginaire et le réel. Mais, parce que quand vous dites que je suis le Dieu de Père, ça c'est l'imaginaire. Vous avez entendu parler, selon les traditions religieuses, de la très sainte Trinité, et comme on a dit, c'était le sommet de tout. L'imaginaire est sur le trône de Dieu. Je suis Dieu le Père. C'est difficile d'aller plus loin. Alors, on voit très bien comment on peut très bien imaginativement. Mais c'est le domaine imaginaire. C'est extraordinaire. Tous les refoulements, c'est le domaine imaginaire. C'est un domaine réel, mais intentionnel. C'est intentionnel, ce n'est pas l'aspect substantiel. Et cela arrive à remplacer tout le point de vue réel. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire à propos de l'imaginaire, je suis. Si vous restez dans l'imaginaire, le je suis. Le je suis devient tout à fait éphémère. Le je suis touche le réel et l'imaginaire risque de couper du réel et l'action de la prudence, de l'acte prudentiel qui nous fait acquérir la vertu de prudence, c'est toujours de canaliser l'imaginaire sans le détruire. On a besoin de l'imagination, on en a besoin constamment. On a besoin de la passion, on a besoin constamment, mais il faut que la passion devienne personnelle par la vertu. Et c'est sûrement un des aspects très difficiles aujourd'hui, au point de vue éducatif, d'arriver à faire acquérir la prudence. Cinquième dimension. L'art. L'activité. ça vous semble quelque chose de trop particulier, alors mettez plutôt. Je crois qu'il vaut mieux, pour qu'on comprenne mieux, dominer l'univers. Transformer. C'est moi-même. Je me transforme. s'adapter de la manière la plus extraordinaire qui soit. Alors, c'est très important de voir que la personne humaine a conscience de son corps. Et qu'est-ce qu'ajoute le corps ? Partie essentielle. Je ne veux pas le supprimer. Partie essentielle. qu'est-ce que c'est que la situation limite? Vous allez tout de suite comprendre. Dans une ville où il y a pas mal de neige, on comprend ça très bien. Quand la neige commence à tomber dans une ville, dans une petite ville, ça conditionne énormément la circulation. On a l'impression qu'il y a une chape de plomb et tout va beaucoup moins vite. Il y a comme un silence qui s'établit. Ça conditionne, c'est tout. Il faut aller un peu moins vite. Quand vous êtes pris par une tornade de neige, dans le champ, une tornade de neige, vous perdez la direction. Vous savez plus très bien ce qu'il faut faire. Quand je venais souvent de Fribourg à Paris en auto, ça arrivait l'hiver d'être pris par une tornade de neige en traversant le Jura. Une fois ça m'est arrivé. C'était le père Marie-Alain qui conduisait. Il m'a dit, j'ai pu aucune domination de la direction. C'est les litanies. Avec force. Puis on est arrivé. C'était de la luge. Absolument. Vous avez absolument plus. Ça dégringolait. Vous ne pouvez pas freiner, ça ne servait à rien. On était après dans un courant. De rapidité. C'était assez curieux comme expérience. Et puis, dernière chose, la chute de neige, l'avalanche. Situation limite. Vous voyez, la même réalité corporelle peut conditionner, ralentir, faire perdre la direction. Et l'avalanche, en situation limite, j'ai besoin de dormir. Si mon corps est malade, tout proche de la mort, situation limite, je n'arrive plus à penser, situation limite, le poids du corps. Vous voyez, c'est très curieux que nous portons en nous quelque chose qui peut empêcher notre esprit de rechercher la vérité, notre cœur d'aimer librement. Nous portons en nous quelque chose qui nous empêche ou qui arrête notre liberté, notre capacité d'aimer, notre capacité de rechercher la vérité et de laisser le psychisme libre, le corps libre. Donc, comprenons bien comment le corps fait partie de la personne humaine en introduisant dans la personne humaine un conditionnement substantiel. Oui, ce que nous gérons du corps n'est pas le conditionnement, puisque on le domine. Ce que nous gérons du psychisme n'est pas quelque chose qui est un pur conditionnement, on le domine. Mais le psychisme peut lui aussi devenir à un moment donné situation limite. Lorsque le psychisme se réveille à cause du refoulement et devient ce qui me commande, ce n'est plus un acte prudentiel, c'est le psychisme. Le psychisme peut très bien à un moment donné tout commander et dire « je dois disparaître et mourir ». On sait très bien que ceux qui se suicident sont commandés, mais impérativement, par le psychisme. C'est pas leur prudence. C'est le psychisme qui commande. C'est très mystérieux. Situation limite du psychisme. Situation limite du corps. Voyez. Et ceci, c'est pour montrer qu'à un moment donné, le conditionnement va l'emporter sur la personne. C'est le débordement de la personne, la situation limite. Et ce débordement, il vient du corps et il vient du psychisme. Il y a des deux côtés. Donc voilà les six dimensions de la personne humaine. J'ajoute que ces six développements peuvent se développer très diversement. Il y en a qui s'imposent à moi. Bon, je suis dans son autonomie. Il s'impose à moi. Il grandit. J'en ai une conscience beaucoup plus nette. Mais je ne peux pas augmenter cette autonomie. Je peux en prendre conscience. C'est la même chose pour le corps, donc les deux extrêmes. Avec le point de vue du corps. Ce sont les deux données. Quelque chose qui s'impose à moi substantiellement, radicalement. personne humaine, c'est toujours un devenir à l'intérieur de l'être, dans l'être humain et dans le conditionnement radical du corps. Et comme il y a un devenir, je peux très bien mettre en pleine valeur certains aspects de mon développement. Je peux très bien développer davantage la recherche de la vérité. Je peux très bien développer davantage la capacité d'aimer. Et j'aurai deux types de personnes différentes. Je peux très bien mettre en pleine valeur la prudence. Il y a des gens qui sont tellement prudents. Pour eux, c'est tout. Il reste toujours une taille prudentielle. Prudence personnelle, très nette. Et quelquefois prudence politique. Je peux très bien mettre en pleine valeur le dominio. Donc, à l'intérieur de cette personne humaine, disons qu'il y a quatre modalités différentes de la personne humaine. La dominante, recherche de la vérité. 1. 2. Capacité d'aimer. 3. Prudence. 4. Dominio. Quatre modalités différentes, concrètes, de fait. Je pourrais me demander aussi, est-ce que la personne humaine est la même pour l'homme ou la femme? Vous voyez que la différence première vient du conditionnement, le corps. C'est pas l'esprit. C'est pas le je suis. C'est pas la substance, la même âme spécifiquement. Donc, c'est vraiment le conditionnement. Alors, ce qui peut se faire, ce conditionnement, il a une répercussion sur tout le reste. Il est toujours présent. Puisque même quand je pense, il y a un contact avec le corps, par l'imagination. Quand j'aime, c'est tout mon être qui aime. C'est toute ma personne qui aime. La prudence, elle, implique un contact toujours, nécessairement, avec l'imagination. Et donc le développement des vertus n'est pas le même chez l'homme et chez la femme. La femme est prudente à sa manière, et l'homme est prudent à sa manière. Je me souviens, quand je voulais me détendre un peu, je prenais le petit train de Lausanne à Fribourg, qui s'arrête à tous les chemins. Alors on a un public assez particulier, les braves femmes du canton de Vaud, qui discutaient toujours entre elles, parce que c'était le train du matin, les hommes travaillaient, les femmes étaient là, elles discutaient toujours par rapport à leur mari. C'était très intéressant à écouter. Parce qu'on voyait les critiques qu'ils faisaient au point de vue de la prudence de leur homme. La femme critique l'homme imprudent. Il ne sait pas ce qui fait, il est un peu fou. Il a des moments de folie, que voulez-vous. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est que de demeurer. Il y a une prudence. De l'homme, une prudence de la femme. Il y a une vertu de tempérance de l'homme, une vertu de tempérance de la femme. Vous voyez, plus je suis proche du corps, plus le conditionnement est grand. Et la même chose dans le dominio, dans le point de vue du travail, dans le point de vue de l'art. Mais ce n'est que du côté du conditionnement. Substantiellement, donc essentiellement, si vous voulez, c'est la même, c'est la personne humaine. Mais dans le conditionnement, c'est différent. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez par là préciser tout de suite ces quatre modalités de la personne humaine, et ça on ne peut pas nier. La personne de l'artiste, l'égoïste est autre chose que la personne de l'homme prudent. Mettez-les l'un à côté de l'autre. Ce sera très difficile pour la vie commune. Très difficile. L'artiste vit seul. L'homme prudent aime la communauté. Il fait la communauté. L'artiste est toujours un peu anarchiste. Alors il faut savoir bien le prendre au bon moment. Parce que si on le prend au mauvais moment, oulala, il réclamera sa liberté. Vous voyez, la liberté de l'artiste. Je prends tout de suite le point de vue plus psychologique. Je ne vais pas parler de la liberté, hein, vous avez vu. Parce que la liberté ne structure pas la personne. Elle est essentielle. C'est évident. Elle est essentielle. Mais elle ne structure pas. Tandis que ça structure. La liberté est différente chez l'artiste. Pour moi, il y a deux libertés. Il y a la liberté de l'artiste et la liberté de l'homme prudent. Et il y a la liberté de l'esprit. Donc une troisième liberté du chercheur, de l'ami. Alors, quatre libertés, quatre modalités de liberté. Alors, quand vous cherchez ce que c'est que la liberté, vous vous oubliez les quatre modalités de la liberté, vous pouvez pas savoir ce que c'est. En réalité, il faut toujours chercher qu'est-ce que c'est que l'acte libre de l'artiste, l'acte libre de l'homme prudent, l'acte libre de l'amoureux, de l'ami, l'acte libre du chercheur. Et ceci, c'est l'effet propre de la personne humaine. Une personne humaine est responsable et libre. Et elle est libre selon quatre modalités différentes. Demain, nous verrons la septième dimension de la personne humaine. La personne humaine religieuse, c'est-à-dire celle